Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.
Heureux de vous savoir nombreux au rendez-vous de l'information économique sur Radio de la Paix. Economia s'intéresse aujourd'hui à la stratégie de planification de développement mise en place par les différents présidents ivoiriens. Les plans nationaux de développement de l'indépendance à nos jours ont permis au pays de se hisser parmi les puissances économiques africaines et de poursuivre donc son chemin vers le sommet. Nous analyserons les différentes stratégies mises en place dans cette émission et dans celles qui vont suivre les semaines à venir. Ce sera avec Faustin Onozon, spécialiste en intelligence économique, que nous retrouverons dans quelques minutes dans la rubrique Regard sur la gestion de l'économie. Mais bien avant, vous aurez le lexique économique et vers la fin de ce numéro d'Economia, la rubrique itinéraire. Et nous serons avec des jeunes qui ont mis en place une structure de pré-collecte d'ordures à Kounfao. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous.
Le lexique économique. Le lexique économique.
Qu'est-ce qu'un plan national de développement ?
Plus connu sous l'acronyme PND, le plan national de développement est un programme qui fait office de cadre de référence et de coordination des politiques économiques, sociales et culturelles d'un pays, notamment la Côte d'Ivoire. Ce plan définit généralement les priorités et les résultats attendus après l'exécution des actions menées par le gouvernement. À titre d'exemple, le PND 2021-2025 de la Côte d'Ivoire s'appuie sur 6 piliers. Le premier pilier, c'est l'accélération de la transformation structurelle de l'économie par l'industrialisation et le développement des grappes. Le deuxième, le développement du capital humain et la promotion de l'emploi, notamment en assurant une éducation adéquate à tous les Ivoiriens et aux jeunes en particulier, afin de mieux les outiller à absorber les technologies modernes. Le troisième pilier consiste à développer le secteur privé et l'investissement afin d'améliorer la compétitivité générale de l'économie. Le quatrième pilier, c'est le renforcement de l'inclusion, de la solidarité nationale, de l'action sociale en favorisant la participation de tous au développement économique. Le pilier 5, c'est le développement régional équilibré, la préservation de l'environnement et la lutte contre le changement climatique. Enfin, le sixième pilier, c'est le renforcement de la gouvernance, la modernisation de l'État et la transformation culturelle pour consolider la paix, assurer la sécurité, la justice et la concorde sociale.
Regard sur la gestion économique nationale.
La rubrique, vous la connaissez, mes auditeurs, c'est Regard sur l'économie. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à quelque chose qui planifie le développement d'un pays. On l'appelle communément le PND, c'est le Plan National de Développement d'un pays. Monsieur Onozon nous en parle, il est avec nous. Monsieur Onozon, bonjour.
Bonjour, monsieur Komi.
Alors, le PND, petit historique de cette planification de développement, on en parle de plus en plus.
Merci, monsieur Komi. En fait, la planification date depuis nos indépendances. Et elle a commencé avec le président Félix Houphouët-Boigny. Donc, au lendemain de notre indépendance, il a estimé qu'il fallait planifier notre développement. Et cela a été important pour nous, parce que le développement prodigieux que notre pays a connu vient de là. En effet, comme on le disait tantôt, le développement de ce pays repose sur l'agriculture. C'est un slogan qui a marché depuis fort longtemps. On avait mis l'accent sur le secteur primaire et le président Houphouët en son temps avait eu raison parce qu'il avait mis l'accent sur deux produits principaux, notamment le café et le cacao. Aujourd'hui, nous sommes premier producteur mondial de cacao. Et donc, il savait, le président Houphouët, que pour promouvoir le développement, il fallait un investissement assez important. Et il avait le choix entre importer l'investissement, c'est-à-dire s'endetter à l'extérieur, ou alors le faire d'une manière inclusive, c'est-à-dire prendre ce qui nous revient au niveau de nos recettes et puis promouvoir notre investissement. Et c'est ce qu'il a fait. Houphouët a mis l'accent sur le solde du commerce extérieur. Vous savez, quand vous prenez la fonction de production, il y a l'investissement qui enclenche cette variation positive de la production, même négative aussi, ça dépend. Et puis, associé à l'investissement, nous avons la consommation, c'est-à-dire promouvoir le plein emploi. Et à ces deux paramètres macroéconomiques qui mettent l'accent sur ce qu'on appelle la demande globale, nous avons le sort du commerce extérieur. Et le sort du commerce extérieur, c'est l'ensemble des exportations moins l'ensemble des importations, de tout produit. Et le président Houphouët, lui, c'est ce volet qu'il a effectivement pris pour pouvoir promouvoir notre investissement, pour pouvoir faire la relance de l'économie nationale. Et en ce moment, il n'y avait pas de dette et l'économie s'est passée correctement.
Les années glorieuses de développement de la Côte d'Ivoire, années 70.
Exactement. Parlait, oui. Et tout s'est passé correctement. L'investissement avait mis l'accent sur le plein emploi, qui lui mettait l'accent sur le sort du commerce extérieur. Et nécessairement, ça nous donnait une croissance à deux chiffres, de plus de 10%. Et ça, ça a duré un certain moment. Et le président Oufouette a développé notre pays à partir de la gestion de la production nationale vue de cette façon-là. Et puis après, il y a eu Bédier. Il a poursuivi pratiquement les mêmes alternatives. Il avait développé en son temps
les 12
chantiers fonds d'Afrique.
Oui, les 12 chantiers.
Bon, malheureusement, on n'a pas pu finir ce qu'il avait commencé.
C'est une approche de planification.
Tout à fait. Mm-hmm. Et puis après, il y a eu Babo qui, dans le cadre de sa planification, a mis sur pied ce qu'on appelle le budget sécurisé. Lui, il a estimé tout simplement qu'il ne fallait pas s'endetter, j'allais dire, d'une manière importante ou durable. Et qu'il fallait compter sur ses propres forces. Bon, seulement là, et quand vous comptez sur vos propres forces, vous êtes obligé d'acquérir ce que vous pouvez avoir. Mm-hmm. Même si vous faites des prévisions, et ces prévisions doivent dépendre de vos propres forces. Et quand vous avez donc un objectif de développement, développer beaucoup de routes, beaucoup de puteaux et autres, ben vous êtes obligé de vous en tenir à ce que vous avez. Voilà, c'est un peu ça le problème à ce niveau. Dans le cas du budget sécurisé, sinon logiquement ce sont des alternatives qui passent aussi pourvu qu'on profite bien des revenus de la croissance économique. Je pense que ce budget sécurisé peut faire des émules. Mm-hmm. Et puis après il y a eu bien entendu le président Ouattara, mm-hmm, qui lui a conservé le même corps en matière de gestion de la production nationale. C'est toujours la demande globale qui s'est faite d'une manière proactive, mais seulement lui il ne prend pas seulement les recettes de l'État, mais il a plutôt mis l'accent sur la dette. Voilà, sur la dette, ce qui est bon dans cette perspective, c'est que vous réalisez tout ce que vous voulez réaliser. C'est-à-dire ce que vous devriez réaliser peut-être en 10, 20 ou 30 ans, vous pouvez le réaliser en 5 ans ou en 10 ans, au lieu d'attendre. Voilà, donc chacun a sa technique.
Sa technique, justement. C'est une vue générale des différentes touches de planification avec les différents présidents qui se sont succédés à la tête de la Côte d'Ivoire. Mais revenons un peu à ce concept économique de planification. Alors, on regarde des fois des planifications quinquennales. Alors, pourquoi, selon vous, en tant qu'économiste, il faut séquencer le développement d'un pays?
Oui, c'est un peu comme vous-même, le salaire que vous avez. De la même manière que vous séquencez ce que vous avez comme salaire, ce que vous devez avoir comme réalisation, mm-hmm, parce que vous savez que vous ne pouvez pas tout avoir en même temps. Donc, il faut vous donner un certain nombre d'années. Pour des familles, ça peut être 5 ans, 10 ans, 15 ans. Tout dépend de votre revenu et de la variation de votre revenu. Mais un pays, c'est exactement la même chose. Encore pour un pays, il y a une politique économique et financière. Partout dans le monde, c'est la même politique économique et financière. On parle des investissements. Et des investissements, on développe ce qu'on appelle le plein emploi. Et du plein emploi, on met l'accent sur le sort du commerce extérieur. Donc, ce sont des paramètres macroéconomiques qui permettent de développer un taux de croissance macroéconomique. C'est exactement la même chose partout. Et donc, Oufouette, dans sa conviction, celle de développer la Côte d'Ivoire, n'est pas allé à côté de cette procédure. Il a adopté, comme tout le monde, la même procédure. Mais seulement, lui, ça a été fait d'une manière inclusive. C'est-à-dire, il a pris ses propres recettes, ses propres revenus pour faire des investissements qui concernent la Côte d'Ivoire.
Mais pour revenir au cas des années au fouet, il y a eu aussi l'endettement du pays. Je sais qu'il y avait des grands travaux à mener. En termes de dette, on avait aussi l'apport extérieur.
Oui, mais les 10 premières années, on n'a pas véritablement connu ça. Mm-hmm. Parce que c'est le boom au niveau du café et du cacao. C'était un taux de croissance à deux chiffres. Et puis les revenus des investissements étaient assez importants. Mm-hmm. Donc Oufouette en a profité pour développer la Côte d'Ivoire. Mm-hmm. Bien entendu, les années qui ont suivi, il fallait faire, je ne dirais pas comme tout le monde, mais c'est des procédures économiques et financières. Quand on n'en a pas, on s'endette et puis on rembourse.
C'est ça, ça fait partie de la vie.
Exactement.
Une certaine crédibilité amène à aller emprunter.
Exactement, mais lui, il a pu faire asseoir d'abord des procédures qui pourraient lui permettre d'emprunter. Mm-hmm. Voilà, parce que si vous n'avez pas de gage, vous n'avez pas de garantie, il vous est difficile au jour d'aujourd'hui d'aller auprès d'une banque pour pouvoir emprunter. Mais Oufouette a pu asseoir les gages, les garanties de la gestion d'une économie nationale. Mm-hmm. Il y avait les routes, il y avait les hôpitaux, Il y avait les universités, il y avait les industries, il y avait le port qui faisait partie des réalisations du président Houphouët Boigny. Malheureusement, on a perdu la Citram quelques années après, lorsqu'on a eu une turbulence économique et financière. Et cela joue aujourd'hui sur la balance des paiements extérieurs de notre pays, notamment sur le secteur tertiaire.
C'est cela. En tout cas, une manière de comprendre un peu cette manière de se développer en se donnant des objectifs, en évaluant ce qu'on a pu faire et en relançant en termes d'ambition. Et c'est ça, une stratégie de planification. Et depuis les indépendances, on a toujours un ministre des plans qui essaie de tracer ces différents chemins que la Côte d'Ivoire doit prendre. Alors, on va s'arrêter là aujourd'hui. On va creuser encore d'autres éléments dans la prochaine production d'Economia pour mieux comprendre les éléments qui constituent généralement un plan de développement. Monsieur Ounozon, merci à vous.
Merci, monsieur Koumé.
Itinéraire, le parcours de vie de notre invité.
Aujourd'hui, nous allons vous présenter un groupe de jeunes. C'est des jeunes qui ont décidé de contribuer à leur manière à l'assainissement de la ville, mais aussi de gagner un peu d'argent quand même. C'est important. Alors, nous sommes avec les initiateurs de ce projet. Bonjour, monsieur.
Bonjour, monsieur.
Vous vous appelez ?
Kosono Kobena Adjumani Francis.
Vous êtes le président de cette ONG ?
Exactement. Je suis le président de l'ASSIGOM, Association communautaire de gestion d'ordures ménagères, qui est basée à Kounfao.
Qui existe depuis combien de temps ?
Nous sommes dans la première année.
Une association qui a pour objectif d'assainir la ville de Kounfao. Pourquoi, monsieur le président ?
Bon, il faut dire que l'association est partie d'un constat. Depuis des années, on a constaté que la ville est tellement sale et que, comme d'ailleurs partout, on voit des structures privées qui sont basées dans des localités qui aident vraiment la mairie, qui est vraiment le point focal même de cette branche pour exécuter ce genre d'activités. Donc, nous jeunes, pourquoi ne pas se mettre ensemble, créer une telle structure ? Et c'est ainsi, nous nous sommes réunis dire que, ah, voilà, il faudrait qu'on participe vraiment au développement de notre localité, d'où la création.
Bon, la mairie, elle est là. Pourquoi elle ne ramasse pas ses ordures, puis c'est vous les jeunes qui décidez de le faire ?
Non, il faut dire que, en ce qui concerne la gestion d'ordures, la mairie, elle, ne peut pas s'en occuper. Et même raison pour laquelle l'État a mis en place l'ANAGED, qui doit appuyer les mairies pour exécuter cela. Mais en la réalité, dans notre localité ici, l'ANAGED n'intervient pas en tant que tel. Et quand on voit les activités de la mairie aussi, on sait que le personnel est insuffisant. Donc il faut contribuer, il faut participer, il faut aider. C'est pourquoi nous nous sommes engagés. C'est comme c'est du volontariat que nous faisons. Alors, nous sommes un groupe volontaire. Voilà pourquoi nous sommes à la disposition de la mairie. Donc c'est comme si nous travaillons aujourd'hui en partenariat avec la mairie.
Partenariat avec la mairie. Alors vous, vous êtes le président. On présume que vous avez sûrement mûri cette idée, vous en avez parlé aux autres et puis ça a commencé à faire tache d'huile. Alors vous, si on vous demandait de vous présenter, vous êtes qui ? Vous avez fait quoi avant ? Pourquoi cet intérêt pour une association de l'assainissement ?
Je vous dis que moi, je suis opérateur économique. Et d'abord, je me suis lancé a priori dans le commerce depuis l'école. Et après la crise, je me suis lancé aussi dans les achats d'anacard, de noix de cajou. Et après, je suis allé faire une formation au Bénin sur l'agriculture. À mon retour, je me suis lancé dans les activités maraîchères. Et malheureusement pour moi, une année, j'ai fait plus de 15 hectares de maïs et il y a eu feu de brousse. Mais je ne me suis pas laissé. J'ai continué de me battre en faisant les cultures maraîchères. Je mettais les jeunes en groupe dans certains villages où moi-même, je coordonne les activités. Cela m'a permis vraiment de me réaliser. Et c'est une activité que je ne peux pas laisser. Et je suis rentré dans la vie associative. Et je suis dans beaucoup d'associations de jeunesse. La preuve en est, je suis le président de la jeunesse communale de Kounfao. Et compte tenu des avantages de la vie associative, j'ai demandé à mes frères, mes aînés, mes petits frères, qu'on se mette ensemble pour créer cette structure parce que c'est une structure qui a de l'avenir. Parce qu'il faut dire que nous avons un objectif à atteindre. D'abord, nous avons opté pour la propriété de la ville. Et en faisant la précollecte, nous avons un autre volet de projet qui est le recyclage. Et je pense qu'au fur et à mesure, on aura les moyens pour pouvoir recycler. Parce qu'une chose est claire, il ne suffit pas de ramasser. Mais quand tu ramasses, comment tu fais la gestion de ces ordures ? Donc, nous sommes en train de réfléchir sur ce volet pour que vraiment l'entreprise puisse prendre forme.
En tout cas, vous l'avez dit, hein, l'entreprise peut prendre forme parce que c'est cela aussi, c'est une entreprise. Et c'est vrai que les ramassages d'ordures, on en voit hein, dans des villes un peu plus grandes. Je reviens toujours à votre parcours. Hein. Vous avez dit que vous avez fait une formation au Bénin. Mais en quoi particulièrement ?
J'ai fait une formation en agroforesterie et en maraîchage.
Et avec quel diplôme ?
Moi, c'était par rapport au diplôme, nous, c'était une performance, amélioration de performance. Nous sommes allés représenter la Côte d'Ivoire. Nous étions 5 représentants au niveau de la Côte d'Ivoire. C'est un projet qui a été piloté par la CEDEAO, où il y a 5 jeunes par pays qui ont participé. Donc, il y avait plusieurs branches. Donc, comme je sais que nous sommes dans une zone agricole, donc moi, j'ai pris volet agricole, agroforesterie et maraîchage, qui peut me permettre facilement de faire mes jardins. Et effectivement, je suis arrivé, j'ai vu que non, ça m'a rapporté et je continue de le faire toujours.
Justement, vous, avec cette formation au Bénin, vous aurez pu aller dans une grande ville, essayer de monnayer ce que vous avez appris. Pourquoi vous revenez encore dans la zone? Pourquoi cette volonté-là de se dire « je suis à Koun-Fao, je réussis à Koun-Fao »
Ok, il faut dire que dans ma formation, il y a ce qu'on appelle en agriculture, il y a ce qu'on appelle la synergie. La synergie, qu'est-ce que cela nous demande? Aujourd'hui, les ordures que nous ramassons, j'ai parlé tout à l'heure de recyclage. Et le recyclage au niveau des ordures, ça nous permet de créer de l'engrais et même du biogaz. Et donc, en faisant le recyclage, notre association peut ouvrir encore une autre branche agricole qui peut permettre de créer nous-mêmes notre propre matériel qui va alimenter et produire typiquement ce qui est bio. Donc, c'est comme notre entreprise sera dans une synergie où ce qui est jeté est transformé, qui amène encore à la production. Et la production aussi, et c'est déjà consommé, revient encore à la transformation.
En tout cas, un cycle que vous voulez mettre en place, justement pour l'instant, c'est la pré-collecte. Ensuite, le traitement, l'utilisation de ce que vous aurez eu. En tout cas, c'est une initiative à encourager. Vous n'êtes pas seul. Voilà, vous vous êtes fait entourer aussi par d'autres personnes, notamment des femmes. On n'a pas toujours des femmes dans ces genres de projets. Une d'entre elles est engagée. Madame, bonjour.
Bonjour.
Vous vous appelez comment?
Je me nomme Kwakuama Geneviève.
Kwakuama Geneviève, vous êtes une femme. C'est vrai qu'on dit tout ce qui est propriété intéresse les femmes. Mais à quelle occasion vous avez décidé d'approcher les autres membres de votre association ACGOM pour vous lancer dans cette initiative-là?
Comme c'est mon mari qui est Kakaji, donc c'est lui qui m'a encouragé d'entrer dans le groupe.
Alors, bon, c'est vrai, vous avez un mari qui est membre donc de l'association. Et vous, la femme, vous aurez pu dire, bon, moi, je reste à la maison, je m'occupe de ma cuisine, de mes enfants. Pourquoi vous êtes aux côtés de votre mari et de ses amis pour ce projet-là de ramassage d'ordures?
Ce projet, ça nous engage, nous tous, parce que la santé, après tout. Donc, si nous sommes entourés d'ordures, ça peut nous arranger. Ça peut nous donner des maladies, surtout aux enfants.
Quand vous, en tant que femme, vous allez rencontrer les autres femmes dans les foyers, qu'est-ce que vous leur dites pour qu'elles comprennent que, bon, voilà, parce que je sais que vous demandez une petite contribution pour le ramassage d'ordures, pour que les gens puissent dire, bon, oui, c'est une bonne idée, on va vous aider à aller dans ce sens-là.
En tout cas, ce n'est pas facile, parce que quand on passe de cours en cours, d'autres nous acceptent, d'autres aussi refusent. Donc, on doit les sensibiliser.
Président, on va revenir à vous, justement. Comme vous l'avez dit, concrètement, vous approchez les foyers pour leur dire, bon, voici notre projet, vous devez contribuer. La contribution, pour l'instant, c'est à quel niveau?
Bon, la contribution, c'est à 1000 francs par ménage le mois. Et on passe deux fois par semaine dans chaque ménage. Et nous, quel est notre système de travail? Quand on arrive dans les ménages, on leur fait savoir qu'aujourd'hui, la mairie a fait sa participation en construisant des bacs à ordures dans les quartiers. Donc, nous sommes une structure privée qui venons en aide. Pour ceux qui ne peuvent pas aller déposer dans les bacs à ordures, nous, on prend dans les ménages pour aller déposer dans les bacs à ordures. Maintenant, une contribution forfaitaire qui va permettre d'intéresser ceux qui sont avec nous, qui travaillent avec nous. La contribution, c'est 1000 francs.
Et vous êtes combien?
Avec l'encadrement et le personnel, nous sommes 25.
25 personnes. Alors, justement, la gestion de tout ce monde-là, 1000 francs par ménage, est-ce que vous réussissez quand même à intéresser un tant soit peu tous les membres de l'association pour que le projet puisse continuer comme vous l'avez pensé?
Dans un premier temps, il faut dire que ce n'est pas facile. Aujourd'hui, nous travaillons à fonds propres. Et au fur et à mesure que nous travaillons, les ménages sont en train d'augmenter. Et à travers l'augmentation des ménages, ça peut permettre de combler. Mais il faut dire que tout début est difficile. Dans le début, on ne pourra pas satisfaire tout le monde comme il se doit. Mais au fur et à mesure, surtout que nous intervenons dans la salubrité, je pense qu'on va trouver des structures qui vont nous venir en aide. Donc on a foi et on sait que ça, on va réussir.
Justement, dans le même sens, quelles sont vos relations avec la mairie de Koun-Fao? Et puis la NAGED, vous l'avez cité, c'est l'entreprise nationale, justement, l'agence qui s'occupe des ordures. Est-ce que vous avez fait des démarches vers cette structure-là?
Pour le moment, c'est avec la mairie qu'on a fait des démarches. Nous sommes en phase de signature d'un contrat de subvention avec la mairie.
En tout cas, merci à vous, président. Voilà, à mes les auditeurs, nous causions avec le président de l'association communautaire de gestion des ordures ménagères. De Kunfao, nous avons rencontré ces sympathiques jeunes qui ont décidé aussi de contribuer au développement de la ville en aidant à gérer les ordures à Kunfao. Merci à vous, président.
Merci beaucoup à vous.
Allez, on se retrouvera avec beaucoup de plaisir dans d'autres villes, avec d'autres personnes. Au revoir et à la semaine prochaine.
Economia, votre rendez-vous hebdomadaire d'informations économiques à suivre sur Radio de la Paix.